Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure du chercheur, le podcast scientifique de Télécom Paris, la première grande école d'ingénieurs du numérique. Dans ce podcast, je reçois Winston Maxwell pour comprendre où on en est de la régulation de l'intelligence artificielle et en particulier des IA génératives. Winston, tu es directeur d'études droit et numérique à Télécom Paris et ancien avocat au barreau de New York. En tant que spécialiste de la question de la régulation de l'IA, tu as suivi le long cheminement de l'IA Act dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, on a vu lors des discussions autour de ce texte des divergences entre le Conseil et le Parlement européen sur la régulation des IA génératives, et aussi entre pays européens. Alors, quelles sont ces divergences ?
Ben Isabelle, d'abord, il y a de grandes zones de convergence. On a grosso modo un accord sur comment traiter les IA à haut risque avec les systèmes de gestion de risque, des documentations, transparence, explicabilité, etc. Néanmoins, il y a des poches de divergence assez fortes qui reflètent au fond la différence de perspective du Parlement européen et du Conseil européen. Le Parlement européen étant beaucoup plus soucieux des droits fondamentaux qui sont mis en jeu par les systèmes d'IA. Le Conseil européen, et c'est une simplification, mais est peut-être plus soucieux de l'innovation, le leadership européen, la possibilité de créer des géants européens en matière d'IA. Et nécessairement, il y a une friction entre ces deux visions. Et cette friction est naturelle et saine. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, mais les deux doivent coexister. Et on voit ça notamment dans les discussions autour de l'IA générative.
Et donc, selon toi, est-ce que du coup, on est arrivé là à un bon compromis pour ne pas trop brider l'innovation d'un côté, les startups européennes de la recherche en IA, et puis garantir de l'autre côté une régulation suffisante ?
Bon, on verra l'usage. Hein. Le bon compromis se verra au cas par cas lorsque il y a une décision d'un régulateur national ou une décision de la Commission. Le compromis ne peut pas être décrété au niveau. C'est comment la régulation est appliquée sur le terrain dans chaque pays membre. Un des grands débats sur la table actuellement, c'est bien sûr, est-ce qu'il faut réguler la technologie et la recherche en tant que telle? Ça, c'est quelque chose que je crois que la France est opposée à cette idée qu'il faudrait imposer des contraintes réglementaire sur même une technologie qui est dans un labo, mais qui n'est pas exploitée, alors que le Parlement européen, il parle des modèles de fondation, c'est le terme qu'ils utilisent, qui vient de l'université de Stanford, et qui sont même au stade du labo et publiés sur une plateforme commune, ben, il faudrait qu'ils répondent à certaines normes réglementaires. Donc, les discussions, à ma connaissance, les discussions s'achoppent sur ce point-là.
Et c'est vrai que la France argue que les modèles de fondation seront soumis à des obligations fortes s'ils sont utilisés par les entreprises pour des usages à haut risque. Donc, il parlait de la conduite autonome, par exemple, des notations d'examen, du tri de CV, diagnostic de santé, etc. Donc, là aussi, il y aurait une gestion un peu différente en fonction de la régulation, donc en fonction du risque.
Oui, exactement. L'architecture d'origine de l'IA Act, c'est de se focaliser sur les usages et pas sur la technologie en tant que telle. Donc, si on utilise l'IA dans un contexte à haut risque pour un usage de recrutement dans une entreprise ou pour accorder un prêt ou dans l'administration publique, bien sûr, ça va être considéré comme une application à haut risque et sera soumis à toute une panoplie d'obligations. En revanche, la technologie en tant que telle, on peut dire que c'est neutre. C'est comme un couteau. On ne va pas réguler un couteau en tant que telle. On va réguler l'utilisation du couteau.
D'accord. Alors, de façon plus globale, la régulation de l'IA est aussi au cœur de l'actualité avec la mise en avant des défaillances de modération de X Twitter à l'occasion du conflit israélo-palestinien et de la lenteur des enquêtes et des sanctions européennes en application du DSA. D'ailleurs, on a parlé de l'IA Act, mais en plus, donc le DSA et le DMA viennent d'être adoptés. Est-ce qu'avec tout ça, on ne peut pas parler de millefeuille réglementaire ?
C'est sûr, il y a une complexité dans les surcouches de régulation. Plusieurs règlements européens interagissent tout le temps. Il y a Tu n'as pas mentionné la RGPD, mais bien sûr, la RGPD est là et régule déjà beaucoup de ce que c'est l'IA. La CNIL et d'autres autorités travaillent depuis plusieurs années sur les cas d'IA pratiques. Donc, il y a déjà une régulation RGPD. Maintenant, il y a le DSA qui va réguler les algorithmes qui sont utilisés par les plateformes pour soit faire des recommandations de contenu, soit faire la modération de contenu, donc le filtrage de contenu illicite. Et là, effectivement, c'est très, très controversé en ce moment parce que comment voulez-vous qu'un algorithme fasse des choix en matière de ce qui est une couverture journalistique d'un événement horrible ou une propagande terroriste, par exemple. Donc, les algorithmes essaient de faire un premier tri, mais ensuite, ils envoient systématiquement à des modérateurs humains. Et bon, c'est une tâche très difficile, mais c'est sûr que le DSA donne cette responsabilité aux grosses plateformes de se débrouiller et de faire en sorte à ce que le nombre de contenus illicites diminue drastiquement.
Mais est-ce que du coup, le principal problème, ce n'est pas l'abondance de réglementations, mais plutôt qu'elles ne sont pas les mêmes selon les zones géographiques et qu'on se retrouve là en face de plateformes américaines le plus souvent, mais à diffusion internationale et donc dont la régulation là, est compliquée par zone géographique?
L'avantage maintenant, c'est qu'on a une réglementation unique en Europe. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, il y avait autant de réglementations qu'il y a de pays en Europe. Maintenant, avec le RGPD, c'est le cas du DSA et l'IA Act, il y a une seule réglementation. Donc, l'Europe peut parler d'une seule voix. Et donc, la question, c'est est-ce que ce bloc européen de réglementation peut être efficace à l'égard des grands acteurs américains? Et la réponse, si on peut s'appuyer sur l'expérience en RGPD, la réponse est oui, mais ça met du temps. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a toujours des recours, et c'est normal, lorsqu'il y a une sanction ou une autorité qui dit qu'il faut couper tel ou tel service ou il faut modifier. Il y a toujours une discussion sur la territorialité de la réglementation européenne. Est-ce que dans quelle mesure les règlements européens s'appliquent aux activités de Meta aux États-Unis, par exemple? Cette discussion a lieu, il y a des recours, ça monte à la Cour de justice européenne, et à la fin, on arrive à finalement avoir une zone Europe qui fait respecter sa réglementation. Je répète un peu le script de ce qu'on a vu avec le RGPD.
Et puis, côté régulation, c'est vrai qu'on en parle moins, mais donc l'Europe est en avance, mais n'est pas la seule à prendre des mesures. Ce que tu dis, c'est que les États-Unis, la Chine, etc., ont aussi, notamment sur les intelligences artificielles génératives, pris des mesures de régulation.
Oui, oui, il ne faut pas donner l'impression que les États-Unis, c'est une zone où il n'y a pas de réglementation. Même si aux États-Unis, c'est les plus grands acteurs, ça attire les investisseurs, etc., ils doivent finalement aussi se plier à des obligations de réglementation. C'est juste que la méthode de réguler est différente aux États-Unis. Récemment, pour l'IA générative, on a vu que la Maison-Blanche s'active pour être sûre que toutes les lois existantes sur la protection des consommateurs et sur la lutte contre les discriminations sont appliquées avec beaucoup de vigueur à l'IA. On a vu qu'au niveau des agences et de l'utilisation de l'IA dans l'administration de l'État, que l'administration Biden a imposé des restrictions très fortes. Il y a un fort financement américain pour créer des bases de données et des labos qui reflètent les bonnes conduites. Le gouvernement américain utilise tous les pouvoirs de persuasion à sa disposition pour un peu tordre le bras des acteurs. Donc, c'est une autre forme de régulation. D'ailleurs, il y a la négociation entre le syndicat des scénaristes américains avec Hollywood. Ça a débouché sur un accord sur l'utilisation de l'IA générative. Donc, il y a plein de leviers de réglementation. C'est juste qu'aux États-Unis, on n'a pas la même vision d'un règlement unique comme l'IA Act américain. C'est plutôt une approche pointilliste, mais qui pousse quand même les acteurs de l'IA à obéir à des principes qui sont similaires à ceux qu'on veut imposer en Europe. Donc, il y a une convergence autour notamment des recommandations de l'OCDE, d'ailleurs, qui sont adoptées à la fois par les États-Unis et par l'Europe.
Oui, parce que là, tu parlais des scénaristes et de Hollywood. On imagine donc qu'effectivement, là, il y a une réglementation nationale, des garde-fous, et puis il y a les applications sectorielles, et donc même enfin, au niveau français, on imagine qu'il y a déjà et qu'il y aura toujours des réglementations sectorielles.
Oui, oui, tout à fait. Une des difficultés en Europe, ou les défis, je dirais, en Europe, c'est qu'on a beaucoup de réglementations actuelles qui traitent que ce soit la finance, que ce soit la santé, que ce soit les voitures, indirectement déjà l'IA. Donc, l'IA Act va être une espèce de parapluie ou un filet de sécurité, selon comment vous le voyez, qui va boucher des trous. Mais la difficulté, c'est qu'il risque d'avoir effectivement des exigences spécifiques en matière de santé, bien sûr. Et ces exigences, voiture, santé, finance, doivent coexister avec la couche IA Act et RGPD. Donc effectivement, c'est un peu complexe.
Et du coup, je voulais terminer par ça, mais tu parlais un peu au début des entreprises qui finalement, elles sont un peu quand même responsables de leur propre régulation. Et du coup, est-ce qu'elles sont prêtes aujourd'hui, nous, nos entreprises françaises, européennes, à mettre en place une gouvernance de l'IA ? Et on voit que les entreprises européennes ont majoritairement recours aux solutions proposées par des prestataires américains, ce qui préoccupe d'ailleurs nos gouvernements sur les questions de souveraineté numérique. Et ChatGPT, là, en est l'illustration. Voilà, donc est-ce que nos entreprises sont prêtes ?
Les entreprises, oui, ils vont mettre en place des systèmes de gouvernance qui, d'ailleurs, je donnais un cours hier sur ce sujet, ça va suivre un petit peu les systèmes de gouvernance qui existent déjà dans les entreprises pour la RGPD, des contrôles, des audits, des process. On ne peut pas sortir un nouveau service fondé sur l'IA sans qu'il y ait des audits ou des contrôles à différents niveaux. Donc, il n'y aura pas de difficulté pour les entreprises à comprendre la démarche de l'IA Act. C'est comme, d'ailleurs, les banques le font déjà en réalité. Chaque fois qu'ils valident un nouveau algorithme pour un service bancaire, que ce soit IA ou pas, il y a toute une panoplie d'autorisations, de tests, d'être sûr que ça ne pose aucun risque. Donc, ça, c'est facile. Après, ce qui est plus difficile, c'est de se libérer d'une technologie qui émergerait peut-être américaine, qui émergerait comme la technologie incontournable. Ça, c'est effectivement un risque. On a vu en matière de moteur de recherche, par exemple, que malgré tout, Google a le meilleur moteur de recherche. On peut craindre pour l'Europe peut-être que les meilleurs très, très, très grand modèle de langage sera des modèles qui émergent d'OpenAI ou un autre acteur. Et là, la question se pose, est-ce qu'on essaie de développer nos propres modèles en Europe? Est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est voué à l'échec et il faut se débrouiller autrement? Ça, je n'ai pas la réponse à cette question.
Alors Winston, je vais te laisser le dernier mot de ce podcast. Si on avait encore un effort à faire du côté de la régulation, nous, Européens, lequel serait-il ?
Ce serait surtout d'avoir des approches interdisciplinaires, je pense, au niveau des régulateurs nationaux, parce que c'est les régulateurs nationaux qui vont appliquer tous ces règlements. Et donc, si les régulateurs nationaux ne se mettent pas ensemble avec une démarche pluridisciplinaire, ça va pas marcher bien. Je donne un exemple. Si à la fois, il y a plusieurs autorités, par exemple la CNIL et une autre autorité qui souhaitent réguler une application IA, mais ils ne se parlent pas. Ça, c'est une recette pour une régulation qui ne favorise pas l'innovation et qui sera un échec. Mais ce n'est pas du tout, l'intention des autorités. Ils ont déjà mis en place dans plusieurs pays des équipes interdisciplinaires avec plusieurs régulateurs qui se mettent ensemble.
Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cette approche des sujets de régulation de l'intelligence artificielle vous aura intéressé. Rendez-vous dans de prochains épisodes pour approfondir avec les chercheurs de Télécom Paris ces questions d'éthique et de confiance dans l'IA.